Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Musique libre, école et confinement, retour d'expérience sur la visioconférence, service en ligne, libre et éthique, chronique, merci le libre. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org et vous pouvez déjà y trouver une page consacrée à ces missions avec les références utiles. Nous sommes mardi 21 avril 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je sais que notre réalisateur William adore que je dise ça. Nous diffusons toujours en mode confinement, tout le monde chez soi et tout le monde est sur Mumble. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Allez sur le site cause.fm et cliquez chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission, dièse libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors le programme détaillé, nous allons commencer dans quelques instants par l'interview de Laurent Lémence qui fait de la musique libre. Ensuite la chronique d'Emmanuel Reva sur le thème « Merci le libre ». Ensuite un échange avec Vincent Xavier Jumel, professeur à Saint-Denis, et nous parlerons d'école et de confinement. Après, ma collègue Isabelle Avani partagera son expérience personnelle avec les outils de visioconférence libre en temps de confinement. Et nous terminerons enfin avec Ludovic Dubost pour parler de services en ligne libres et éthiques et notamment du logiciel CryptoPad. Et donc à la réalisation aujourd'hui de l'émission, William Asgavari. Je rappelle que William anime deux émissions sur Cause Commune, Cyberculture le samedi à 14h consacrée au décryptage de l'actualité informatique et pour cause, l'émission qui donne la parole aux gens qui œuvrent pour rendre un monde meilleur le mardi à 21h. Alors tout de suite, place au premier sujet. Alors nous allons commencer par l'interview de Laurent Lémence, qui est normalement avec nous au téléphone, donc on va vérifier. Laurent, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je confirme, je vous entends bien.
Super, parfait. Alors, Laurent, en fait, est l'ancien chanteur du groupe Kylie Moss, dont on a déjà diffusé des musiques dans l'émission. Et aujourd'hui, il a un nouveau projet dont il va nous parler. Et dans le cadre d'émissions spéciales, la playlist de Libre à vous, dont je reparlerai plus tard, on a rediffusé des titres de Kylie Moss, et on s'est dit ça pourrait être intéressant de savoir pourquoi, qui se cache derrière ce groupe, le parcours, les raisons de la licence libre, et donc on a contacté Laurent. Donc Laurent, comme je vous le dis, vous êtes l'ancien chanteur de Kylie Moss. Déjà, une première question avant qu'on parle de Kylie Moss, quel est votre parcours en quelques mots? Comment êtes-vous venu à la musique?
En fait, il faut savoir que je viens d'une famille, mon père était lui-même un musicien amateur accompli, ma mère était, sans être musicienne elle-même, était par contre une mélomane assez... bien documenté aussi, donc voilà, j'ai grandi dans un milieu, j'ai grandi baigné par de la musique, et forcément à l'adolescence, c'est venu un peu tout seul, quoi, tout simplement.
D'accord, alors on va parler de Kylie Moss, mais pour donner une petite idée de style de cette musique à l'époque, je vais demander à William de nous diffuser une dizaine de secondes de Kylie Moss. Nous sommes à la taverne, la corde d'un coup de flot. Sachez pour votre gouverne qu'il n'y en a jamais trop. Il n'y a jamais trop là-bas, il n'y a jamais trop. Donc là, c'était un court extrait d'un titre qui s'appelle « Quand on est à la taverne » que vous pourrez retrouver aussi sur causecommune.fm dans l'émission de la playlist « Le libre à vous », celle de la semaine dernière. Et évidemment, je donnerai tout à l'heure les références complètes pour retrouver les autres titres de Kylie Moss. Donc là, c'est juste une petite idée et donc de ce que faisait Kylie Moss. Alors, quand ça a été créé, quand vous faisiez ça à titre professionnel ou personnel, racontez-nous un petit peu cette aventure de Kylie Moss.
Alors, Kylie Moss a commencé en 1994 dans la petite ville belge de Namur, au confluent de la Sambre et de la Meuse. On était une bande de potes qui avaient envie de faire de la musique ensemble. On avait un goût commun pour la musique folk en général, et plus exactement le folk celtique. Donc au début, on était un groupe assez trad-trad de folk celtique irlandais. Puis petit à petit, on a commencé à rajouter d'autres éléments, des éléments de folk, par exemple de Scandinavie, de Flandre, d'Europe de l'Est, de musique médiévale. De blues aussi, voilà, ça a fini par donner une mixture. Pour faire court, on avait coutume de dire que Kylie Moss c'était un peu moins 50% Pogues, 50% Louise Attaque. Voilà. C'était un groupe semi-amateur, semi-professionnel, dans la mesure où on jouait quand même pas mal, on essayait d'être aussi pro que possible, mais par contre ça n'a jamais été notre métier, on n'a jamais eu l'ambition de le faire. Le groupe se composait de 6 personnes, parmi lesquelles il y avait par exemple un prof de langue dans l'enseignement secondaire, un éducateur dans un collège, moi-même je suis fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, on avait aussi un informaticien, un ingénieur industriel, et voilà. Donc on avait tous un job à côté, mais on s'est bien marré tout en essayant de faire le taf sérieusement. Donc le groupe a joué quand même jusqu'en 2015, et on a fait, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais ça doit être aux alentours des 250 concerts un peu partout en Belgique, de temps en temps dans le nord de la France, dans les Pays-Bas et dans le Grand-Duché de Luxembourg. On a bien roulé notre bosse et on s'est bien marré, et puis un jour ça s'est terminé pour des raisons lié à la difficulté grandissante, disons, avec les enfants qui arrivent, le développement professionnel, etc., de concilier les agendas, et aussi le fait qu'il y avait toujours eu un peu une dichotomie entre une partie du groupe pour qui c'était vraiment juste un hobby, un truc qu'on faisait le week-end, et d'autres qui, toujours sans vouloir vraiment devenir musicien professionnel, voulaient quand même y consacrer plus de temps, plus d'énergie, plus d'investissement en temps, en matériel aussi. Et à un moment, voilà, on a fini par se séparer, bons amis. On continue, certains continuent de faire de la musique, d'autres ont arrêté pour des raisons diverses et variées.
Alors, une vingtaine d'années, effectivement, on va revenir après sur les nouveaux projets, mais donc 20 ans quand même, environ 250 concerts, donc ça fait quand même pas mal de concerts par an. Qui écrivait en fait les textes et la musique? Est-ce que c'était collectif? Est-ce que c'était uniquement l'une des personnes membres du groupe?
C'était plutôt collectif, mais en général, ça se passait avec un des membres qui venait avec une mélodie ou une suite d'accords, parfois traditionnelle, parfois de sa propre composition, et on jammait ensemble jusqu'à ce que ça finisse par trouver des accords, des rythmes de batterie, etc., des paroles qui collaient. Donc c'était un processus qui pouvait parfois prendre un certain temps, parce que voilà, quand on est dans le collectif pur et qu'il n'y a pas vraiment un leadership déclaré, voilà, ça peut prendre un certain temps pour la composition, mais c'était une manière qui nous, en tout cas, nous convenait bien, nous plaisait, et parce que finalement le plaisir on le prenait aussi dans la création de la musique et pas seulement dans le produit fini.
D'accord. Et l'une des caractéristiques, alors nous, dans l'émission, on diffuse des pauses musicales, donc de la musique, mais un des choix, c'est de prendre des musiques qui sont uniquement diffusées sous licence libre, et notamment qui autorisent la réutilisation commerciale ou les modifications. Est-ce que le choix de la licence libre, alors Kalimos était sous licence Creative Commons Attribution, donc CC BY, est-ce que le choix de cette licence libre a été quelque chose de naturel? Est-ce qu'à l'époque, est-ce que c'est dès le départ le choix? Parce que 1994, de mémoire, ces licences d'ailleurs n'existaient pas, parce que je crois que c'est des années 2000, les licences Creative Commons. Donc est-ce que c'est venu rapidement? Qui a proposé ça? Et finalement, pourquoi avoir choisi la diffusion sous licence libre?
Alors, ça ne s'est pas imposé tout de suite, puisque pendant les 2-3 premières années, on jouait vraiment presque exclusivement des traditionnels dans 2-3 cafés à Namur et dans les environs. Donc à l'époque, la question ne nous intéressait pas vraiment. Mais dès qu'on a commencé à sortir un peu de notre zone de confort, oui, le choix s'est fait naturellement, parce qu'il était pour nous très clair qu'on n'avait aucune envie de s'affilier à la SABAM, donc la SACEM belge, qui à nos yeux était non seulement une bande de parasites qui sert surtout à faire rentrer beaucoup d'argent et non, il y a très très peu qui sort, mais en plus les conditions d'inscription à la SABAM sont extrêmement contraignantes, beaucoup de règles qui s'imposent. Par exemple, vous ne pouvez pas, une fois que vous êtes inscrit à la SABAM, vous êtes obligé d'y déposer tout ce que vous publiez. Si vous avez envie un jour de faire don des droits d'un morceau à une association ou à une cause qui vous tient à cœur, eh ben c'est pas possible, c'est interdit. Dès l'instant où vous êtes membre de la SABAM, vous devenez pour ainsi dire la propriété de la SABAM et votre œuvre aussi. Donc du coup, on s'est cherché une solution alternative parce qu'on avait quand même envie de se prémunir contre d'éventuelles malveillances. On avait eu un collègue qui avait eu une mauvaise surprise de voir une chanson à lui volé en quelque sorte par quelqu'un d'autre qui a prétendu que c'était lui qui l'avait composé et qui ensuite a exigé des dommages et intérêts. Bon, ça s'est bien terminé pour lui parce qu'il a pu prouver par d'autres manières qu'il y avait bien une tentative d'arnaque. Mais donc voilà, à partir du moment surtout où on s'est mis à faire des compositions personnelles, il nous semblait clair qu'il nous fallait quand même un moyen de faire valoir nos droits si jamais il y avait contestation, si jamais il y avait tentative de malversation. Et le choix des licences libres correspondait non seulement à ce dont on avait besoin, avait la souplesse nécessaire pour ne pas nous embarquer dans un schéma rigide style Sabam, et en plus de ça correspondait assez bien à notre philosophie générale qui était déjà assez orientée vers le libre, vers l'indépendance et vers l'autogestion. Ouais. C'est un choix qui s'est imposé assez très, très facilement, on n'a pas tourné autour du pot 3 heures là-dessus. C'est moi qui suis venu avec l'idée, donc l'un des membres, le claviériste du groupe, est toujours d'ailleurs informaticien, donc il s'est un peu renseigné plus avant, il nous a éclairé notre lanterne là-dessus. Et voilà, après, c'était très clair pour tout le monde, ça n'a jamais fait l'objet de discussion ou de contestation.
Ok, ben, voilà. Merci pour l'explication. Alors là, on a parlé un peu de Kylie Moss, donc vous l'avez dit tout à l'heure, le groupe s'est séparé donc en 2015. Aujourd'hui, vous avez un nouveau projet donc de musique qui s'appelle The Imaginary Suitcase, toujours disponible sous licence libre. Est-ce que c'est le même style de musique? Est-ce que vous êtes tout seul maintenant ou est-ce que c'est un groupe?
Alors, Imaginary Suitcase, oui, c'est un projet que j'ai lancé en solo. Façon, comment on dit, singer-songwriter, donc en gros un gars tout seul avec sa guitare acoustique. non, ne vous enfuyez pas, c'est pas si mal que ça. Et oui, je fonctionne toujours, donc dans ce projet-là, je fonctionne toujours sur le même principe, des licences libres, et pour exactement les mêmes raisons, la souplesse, l'adaptabilité, et puis aussi le manque d'envie, pour rester poli, de me retrouver pieds et poings liés par une grosse structure, qu'elle soit commerciale ou administrative. Imaginary Suitcase, musicalement, c'est assez différent de Kylie Moss. Effectivement, quand on est tout seul, c'est difficile. Quand on est tout seul avec une voix, une guitare acoustique et de temps en temps un peu d'harmonica, on va évidemment pas sonner pareil qu'un groupe avec une batterie, une cornemuse et une guitare électrique. Donc, là, toujours pour rester un peu dans le même type de définition simple que je vous avais donné tout à l'heure avec Kylie Moss, on pourrait dire que c'est un peu la rencontre. Quelqu'un dans un blog avait un jour écrit que Imaginary Suitcase, ça sonnerait un peu comme si Leonard Cohen et Suzanne Vega avaient eu un fils ensemble, ce qui m'a un peu laissé sur le cul, parce que pour moi c'est un énorme compliment, parce que c'est deux musiciens que j'admire énormément.
Ce sont deux belles références, oui.
Donc oui, c'est plus... Ouais, c'est wow. Rien que de le dire, j'en ai encore... J'en ai le rouge aux joues. Et voilà. Donc oui, c'est une musique plus mélancolique, quoique de temps en temps plus énervée quand même. Voilà. Donc, si vous aimez bien des gens comme Joseph Arthur, Devendra Banhart, Leonard Cohen, Suzanne Vega, Lily Franco, c'est le genre de musique qui pourrait vous plaire.
Juste après la fin de l'interview, là, avec mes dernières questions, on écoutera un morceau effectivement de ce nouveau projet en solo. Je donne tout de suite le site web pour les personnes qui pourraient être intéressées. Donc c'est theimaginarysuitcase.be. Donc Imaginary Suitcase est tout attaché, mais vous retrouverez également les références sur le site de causecommune.fm, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a des actus côté du projet, ou des annonces à faire, ou un message à faire passer, peut-être tout simplement?
Alors concrètement, en ce qui me concerne, moi, ma petite personne, pour l'instant, vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de concerts pour les raisons que j'ai pas besoin d'expliquer, je suppose, je m'amuse à poster, comme beaucoup de musiciens font en ce moment, hein, je trouve que c'est une initiative sympa, je poste des petites vidéos dans mon salon ou dans mon local de répète, sur la page Facebook. Bah ouais, malgré tout, hein. Facebook c'est de la merde, mais quand on est totalement indépendant, il faut bien reconnaître que c'est un outil assez pratique quand on sait l'utiliser avec à bon escient. Et sinon, il y a des concerts, pour le moment surtout en Belgique, mais je travaille. S'il y a des gens en France que ça intéresse, hein, moi je suis toujours dispo, hein, je suis toujours dispo, je peux sauter dans un train, je prends pas cher, je prends pas beaucoup de place. Donc moi ça m'intéresserait évidemment de jouer en France, dès que ce sera de nouveau possible, donc, avis aux amateurs. Sinon, il y a quelques concerts en juillet, août, septembre, octobre, hein, on touche du bois, pour que ça aille mieux d'ici là, parce que là, maintenant, franchement, plus rien n'est sûr. Mais voilà, donc en attendant, je m'occupe comme je peux sur Internet, et il y a, je l'espère, un album qui devrait sortir à l'automne, en octobre ou novembre, en autoproduction. Oui, toujours cette même obsession de l'indépendance et de l'autonomie, n'est-ce pas?
Bah écoutez, c'est super en tout cas. Donc effectivement, dès que le monde sera sorti du confinement, on pourra aller vous voir en concert. Donc je rappelle le site web, theimaginarysuitcase.be, et on va écouter donc pour se quitter un extrait qu'on a choisi ensemble, hein, qui s'appelle Plastique. Et en tout cas, je vous remercie en tout cas pour toutes ces belles musiques libres que vous faites. Et puis j'espère avoir l'occasion effectivement de vous voir un jour en concert en France. Donc c'était
Ah bah
Laurent
ça me ferait plaisir qu'on se rencontre
ex-chanteur
une
de
fois en
Kylie
vrai
Moss. Bah j'espère aussi, ouais. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et on va écouter donc Plastique, donc par Laurent Lémence, The Imaginary Suitcase, et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Is there one thing in this world that is not made of plastic? Is there one thing in this life that is not fake? Well, if someone has found one, I'd like to get my hands on it. Cause we've lost our sense of freedom. It is now on sale on Amazon, along with all the things we used to hold dear. We have lost our sense of freedom. It is now on sale on Amazon, and we smile as we pay the price to get in here. Is there one thing they were saying that ain't no lie? Is there one thing left around that money cannot buy? Did they leave a single meadow not defiled? Or is this the final victory of the money-sucking junkies? We have lost our sense of freedom. It is now on sale on Amazon, along with all the things we used to hold. Lost all sense and wisdom. They are now on sale on Amazon, and we smile as we pay the price to get it here. Get it here.
Nous venons venons d'écouter Plastic par The Imaginary Suitcase de Laurent Lémans, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles. Nous allons maintenant passer au sujet suivant, avec la chronique d'Emmanuel Réva, chronique Itzik numérique. Bonjour Emmanuel.
Salut, ça va Fred?
Ça va, j'ai un sacré écho, mais je ne sais pas si l'écho passe sur le direct, mais sinon on verra bien. Donc moi ça va bien, et toi?
Ouais, écoute, ça va très bien aujourd'hui.
Ok, alors je crois qu'aujourd'hui le thème de ta chronique c'était « Merci le libre ».
Ouais, c'est ça. Alors veux-tu que je me lance?
Eh ben écoute, je propose de te lancer.
Ok. Bon, bah alors comme tu sais, j'adore aller, mais vraiment, je crois que je kiffe trop ça. Mes amis, ils disent souvent « Arrête de râler, Manu ». Alors aujourd'hui, je vais tenter de les écouter, je vais tenter de ne pas râler. Bon, alors l'autre jour, au réveil, j'ai entendu le camion poubelle, mais surtout j'ai entendu mon voisin l'applaudir en disant « Bravo les mecs ». Autant dire que ce matin-là, mon réveil fut bizarre. J'ai eu l'impression d'être témoin d'un traumatisme psychologique né d'un mélange de culpabilité, de codépendance, d'impuissance apprise et pourquoi pas saupoudré d'un peu de syndrome de Stockholm. Ou alors, c'est simplement le besoin primaire d'exprimer son humanité à travers d'encouragements, peut-être maladroits et confus, mais sincères. Alors à ce propos, aujourd'hui, j'ai envie de profiter, moi aussi, pour nommer des héros dignes d'applaudissements du journal télévisé. Enfin, je vais juste dire merci. Je ne vais pas applaudir non plus, parce que bon, un peu de retenue, c'est de coutume. Alors voilà, je commence par le début. Juste après la création du monde en 7 jours par le bon Dieu. Merci à Richard Stallman d'avoir fondé le projet GNU en 1983 et la FSF en 1985. Ces projets, déjà à l'époque, mettaient en avant l'envie de justice et égalité sociale, et aussi se posaient la question du contrôle des outils numériques informatiques sur les humains. Fallait commencer quelque part, et quoi qu'on en dise aujourd'hui, tu l'as fait RMS, alors merci. Merci à John Gilmore, John Perry Barlow et Mitch Kapoor d'avoir fondé la EFF, Electronic Frontier Foundation, ONG qui défend les libertés civiles dans l'espace électronique, en 1990. Ils l'ont fait avec Steve de chez Apple. Je parle du bon Steve, hein, c'est-à-dire Steve Wozniak. Un des premiers gros cas défendus par la EFF, c'était Bernstein versus les États-Unis. Daniel J. Bernstein voulait tout simplement publier le code source de son logiciel de chiffrement. Or, les méthodes de chiffrement de données figuraient sur la liste des armes interdites à l'export, juste à côté de lance-flammes ou missiles et des trucs comme ça. Merci à Linus Torvalds d'avoir mis le noyau Linux en libre en 1991. Même si on ne sait pas si tu étais vraiment convaincu de ton choix de licence au moment de le faire, tu l'as quand même mis sous GPL. Cela dit, si Linux s'appelait Freaks comme tu voulais à la base, je pense que le terme GNU Freaks aurait mieux pris que GNU Linux. Merci à Ian Murdoch d'avoir démarré le projet Debian, une des toutes premières distributions de GNU Linux qui existe encore aujourd'hui. Ce projet est livré avec un contrat social et plein de démarches qui vont dans le bon sens, dans le sens du logiciel libre et libérateur. En plus, Debian n'est pas une entreprise à but lucratif, alors pourquoi utiliser une dérivée de Debian? Autant aller à la source. Et bien souvent, la réponse, c'est parce que Ubuntu, ça juste marche. Bon, d'accord. Mais perso, je préfère la souffrance. C'est un choix. Alors là, j'aurais vraiment aimé être dans le studio pour créer, pour cette édition de Libre à vous, parce que un grand merci à Frédéric Couchet d'avoir créé l'association April, association pour la promotion et la recherche en informatique libre. Bon, ok, ça trébuche un peu sous la langue. Alors on va finir par dire promouvoir et défendre le logiciel libre. Merci donc à toi Frédéric d'avoir lancé l'April en 1996. J'ai appris ça en préparant cette rubrique. Oui, au passage, merci de m'avoir permis cette chronique, moi qui sors un peu de nulle part, ou pour les plus geeks d'entre nous, de /dev/nul/par. Alors comment dire en avril, ne te découvre pas d'un logiciel libre. Et à propos de se découvrir d'un logiciel libre, un merci confus, un peu sur la retenue, mais pas vraiment, mais en même temps, pas tout à fait un vrai merci. En fait, Eric Raymond et Bruce Burns d'avoir lancé l'Open Source Initiative en 1998, dont l'objectif était d'ignorer le côté social du logiciel libre et d'effacer l'image du hippie numérique utopiste et partageur pour se concentrer sur les aspects purement pragmatiques et plus adaptés aux besoins du monde des affaires. Bon, Bruce Burns est à moitié revenu sur son rôle. Il a dit à ce propos, je cite, « La plupart des hackers savent que logiciel libre et open source sont la même chose. » Mais le succès mercatique du terme open source dévalorise l'importance des libertés engagées par les logiciels libres. Alors pour les francophones, mercatique, ça veut dire marketing. Merci aux membres de l'entreprise Netscape. D'ailleurs, la première suggestion de mon correcteur d'orthographe pour Netscape, c'est Rescapé. C'est très drôle. Donc merci aux membres de l'entreprise Netscape qui ont fondé Mozilla en 1998, un peu avant l'acquisition de Netscape par le géant AOL. Le projet Mozilla a permis au navigateur Netscape de survivre au-delà de sa vie d'employé modèle chez AOL, là où il était confiné dans son petit cubicule gris avec comme déco à peine un cactus asséché dans un coin. AOL, pour ceux qui ne se souviennent plus, c'était ceux qui nous pourrissaient nos boîtes aux lettres avec des CD-ROM déjà obsolètes à leur gravure. CD-ROM qu'ils envoyaient toutes les semaines. Les pires spammers du monde, c'était AOL. Je ne pardonne pas, je n'oublie pas, redouter mon choix de passer par n'importe quel autre FAI. On se souviendra donc longtemps des contributions d'AOL au monde des déchets, notamment, mais aussi avec leur vision d'un Internet enfermé dans leur prison à abonnement commercial multi-optionnel. Merci à VLC, Video LAN Client, à ne pas confondre avec le groupe Vive le Communisme, d'exister depuis 2001. C'est tellement un lecteur vidéo qui juste marche, tellement bien qu'on le retrouve sur les ordinateurs de tout le monde. Et presque personne sait que VLC, c'est un logiciel libre. On retrouve VLC même sur les routeurs des FAI, ou box en langage mercatique. Et aussi, merci à VLC pour LibDVD CSS. Je sais que c'est un petit peu dans les détails, mais LibDVD CSS, c'est un truc qui permet de lire un DVD normalement. En très simplifié, les gros distributeurs de DVD et de lecteurs DVD ont mis en place un système pour rendre la vie inutilement pourri, en tentant de restreindre l'utilisation de leurs DVD, et l'objectif est de décider dans des conditions d'utilisation. En gros, la LibDVD CSS permet de casser la restriction numérique qui nous empêche d'exercer notre droit légal d'usage du DVD. Merci aussi à toute l'équipe de Framasoft qui œuvre depuis 2001 et depuis 2004 en tant qu'association dans la promotion, l'éducation et même le développement des logiciels libres. Quand on parle du libre autour de soi, c'est tellement pratique d'avoir Framasoft comme référence pédagogique et outil pratique. Ça m'a permis d'être compris plus d'une fois. Un grand merci à Tor, le routeur Onion, à la base développé par quelques projets de défense américains dans les années 90. Tor est devenu très utile pour assurer une véritable liberté de communication numérique, encore plus sous les régimes les plus autoritaires, mais pas que. Merci aux 5 Gus qui, depuis leur garage où ils s'envoyaient des mails à la chaîne, ont créé l'association La Quadrature du Net, ou LQDN, qui, depuis 2008, défend et promeut les droits et libertés de la population sur Internet. C'est un peu la EFF de la France. Et quand on voit la quantité de propositions législatives qui tentent de restreindre nos libertés via les outils numériques, il est évident qu'on a vraiment besoin d'eux. Merci à Tails aussi, qui depuis 2009 permet au plus grand nombre d'avoir un système d'exploitation complet qu'on peut mettre sur une clé USB, qui fait tout pour protéger la vie privée et l'anonymat de ses utilisateurs. Il s'agit d'un système basé sur Debian, tiens, qui une fois éteint, oublie tout. Un petit peu comme moi en période de stress. La liste commence à être trop longue pour une petite chronique. Alors en vrac, et de ce que j'ai pensé comme ça en faisant cette liste, merci KDE, MPV, MPlayer, OpenVPN, PHP, Peertube, Mumble, Inkscape, Jitsi, LibreOffice, Darktable, Gnome, Mastodon, XFCE, Wikipedia, OpenStreetMap, Creative Commons. J'aurais pu faire tout un truc sur eux. J'arrive même pas à faire cette liste, elle est trop longue, elle est partout quand je regarde. Et d'ailleurs, je trouve ça rassurant. Tous les projets et logiciels qui nous permettent tous les jours, et peut-être particulièrement en ce moment, un espace de liberté immense, voire infini, un endroit qui existe réellement, où on peut communiquer, partager et faire, et même dans certains cas, tout simplement exercer nos droits de citoyens et d'humains. Plus fort, après avoir été l'après-midi sur les pages wiki de tous ces projets, c'est de constater que toutes ces choses, aussi variées soient-elles, sont uniquement possibles grâce à l'ensemble.
Ben écoute, Merci Emmanuel. Déjà, beaucoup de références et de remerciements. Je ne sais pas si on va pouvoir mettre les références sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune. En tout cas, un certain nombre de logiciels dont tu as parlé, on en a parlé dans les émissions, donc je les renvoie sur le podcast. Sur la partie des menottes numériques, les DRM, qui, si je me souviens bien, était consacrée à ce sujet. Donc je renvoie aussi les personnes à cette chronique, donc sur le site causecommune.fm ou sur le site de l'April, april.org. Et quand tu me remerciais pour la possibilité de que tu fasses une chronique, moi je retiens à remercier Eda qui nous a mis en relation, fait un appel à des chroniques. C'est elle qui m'a dit: quand je vois Manu, je me marre tout le temps, donc je suis sûr qu'il fera des belles chroniques. Et effectivement, tu nous fais des belles chroniques.
Eh ben merci pour ces mots très sympas.
Bah écoute, je te remercie, puis j'espère que la prochaine effectivement chronique sera à la radio, déjà pour avoir le plaisir de te voir, et ça voudra dire aussi que le déconfinement se passe bien, et puis sinon on se retrouvera sur Mumble d'ici un mois.
Super, ben, merci, et pareil, et à bientôt.
Allez, à bientôt Manu. Donc nous allons poursuivre avec Ludovic Dubost. Donc Ludovic est créateur du logiciel XWiki, PDG de la société XWiki SAS qui développe donc XWiki et CryptoPad. Et aujourd'hui on va surtout parler de CryptoPad, vu qu'on a beaucoup parlé de XWiki dans l'émission donc du 10 mars 2020 DG avec Ludovic Dubost. Donc je vous renvoie à cette émission pour les détails. Là l'idée c'était un petit peu de faire un petit point avec Ludovic sur le confinement, comment se passe le confinement pour une entreprise comme XWiki, et puis de parler un petit peu de CryptoPad, donc déjà de nous représenter aussi ce qu'est CryptoPad, et est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport justement au confinement, des nouvelles fonctionnalités, une montée en puissance des utilisations. Donc déjà première question Ludovic, comment se passe le confinement pour toi et puis et ta société et puis tes proches?
Alors pour le moment le confinement se passe bien, enfin sans problème majeur. En fait nos équipes sont passées en télétravail à 100%. En fait, même un peu avant le début du confinement officiel, on avait en fait autorisé le télétravail 100% à tous nos employés, aussi bien en France qu'en Roumanie, parce qu'on est sur deux pays, nous, enfin plus en plus quelqu'un au Canada. On avait autorisé ce confinement, télétravail 100%. D'habitude, on autorise deux journées de télétravail, sauf aux gens qui sont en télétravail permanent. Mais chaque employé peut faire deux journées de télétravail. Donc globalement, l'équipe s'est déjà travaillé en mode télétravail, et elle est évidemment équipée d'outils pour cela, puisque finalement, avec une part d'employés significative en télétravail, on doit avoir des outils. Et donc voilà. Globalement, ça se passe bien du point de vue de l'organisation du travail. Évidemment, ça nous manque aussi de se voir. Le travail, c'est aussi un lieu social. Et donc être un peu reclus chez soi, c'est pas ce que tout le monde veut, hein. Donc c'est un peu pesant à force. Ensuite, du point de vue économique, on sait pas bien quel va être l'impact. Moi, je m'inquiète plus des effets économiques a posteriori que les effets à court terme. En fait, nous, on a une activité de service, on avait des projets qui étaient en cours, ils se sont pas arrêtés, il y en a certains qui se ralentissent. Évidemment, il y a des discussions avec des clients potentiels qui se ralentissent aussi. Donc, mais ça va être difficile de connaître l'effet avant, je dirais, le milieu de l'année. Parce que cette situation pourrait aussi amener les entreprises à se poser des questions sur les outils qu'ils ont et à mettre des nouveaux outils en place.
D'accord. Comme tu le dis, tu as la société a la chance de pratiquer déjà le télétravail et donc d'être prête, ce qui n'a sans doute pas été le cas de beaucoup de gens qui ont été contraints tout d'un coup de se retrouver en télétravail et pas forcément avec les bons outils. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Vincent Xavier sur la partie école où c'est l'une des difficultés. Alors la société XWiki, on va pas en reparler en détail parce que je l'ai dit, on a tout un sujet long, donc 10 mars 2020, donc sur causecommune.fm ou sur april.org, vous pouvez retrouver le podcast donc avec Ludovic. La société fait en résumé des logiciels collaboratifs, donc l'objectif c'est d'aider les gens à partager l'information et à collaborer, et dans les deux logiciels phares de la société, donc il y a XWiki, mais il y a surtout CryptoPad, dont on avait un petit peu parlé en fin d'émission le 10 mars, et qui, je pense, a dû sans doute subir quelques, comment dire, peut-être évolutions et peut-être un regain d'attirance par les gens, vu justement le confinement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu CryptoPad et nous dire comment, avec le confinement, ce logiciel évolue?
Ouais, alors CrayPad, en fait, c'est un logiciel d'édition collaborative temps réel qui a la particularité de chiffrer ses données. En fait, là, ce qui veut dire en fait que au niveau du serveur, on n'est pas capable de lire les données que s'échangent les utilisateurs qui collaborent sur les documents. On pourrait le résumer en c'est un Google Drive, Google Docs. Chiffré. Alors, on n'a pas forcément tout ce que fait Google Docs aujourd'hui, mais on a une partie assez importante. On fait des fichiers texte, des fichiers WYSIWYG, ce qu'on appelle en fait texte riche. On fait des Kanban, donc un peu comme le logiciel Trello qui est très connu. On fait des présentations en mode texte, mais aussi des fichiers Excel. Donc on a un module compatible Excel. On fait des petits dessins. Donc tout un tas d'outils de documents, d'édition de documents et de stockage de documents. On peut aussi stocker des documents chiffrés qu'on peut éditer à plusieurs et même consulter à plusieurs, puisque finalement si quelqu'un tape un document, quelqu'un qui est en mode visualisation, il va voir le document évoluer devant ses yeux en temps réel. Un autre aspect, c'est que est intégré dans CrayPad quelque chose de vraiment innovant, qui est le fait de pouvoir en fait se partager ces documents de façon entièrement sécurisée, toujours sans que le serveur puisse lire les informations. Donc nous, en tant qu'opérateur du service CrayPad.fr, qui est le service, on va dire, principal aujourd'hui qui fait tourner le logiciel libre CrayPad, hein, tout le monde peut installer le logiciel libre CrayPad et ouvrir son propre serveur. On en a pas loin de 400, en fait, serveurs installés. Ce service, ben nous, on l'opère, on ne peut pas lire les données que se partagent nos utilisateurs. Alors, depuis donc c'était déjà un logiciel qui a une partie gratuite, c'est-à-dire qu'on peut venir sur CrayPad.fr et l'utiliser gratuitement dans une certaine limite. On avait mis cette limite à 50 mégaoctets de fichiers stockés sur son compte quand on crée un compte. Bah depuis le confinement, alors que notre logiciel progressait très régulièrement, c'est-à-dire qu'il avait plus de doublé par chaque année, il avait doublé chaque année les deux dernières années, même triplé. Là, ce qui s'est passé, c'est que le jour du début du confinement, on a doublé d'usage. Et en fait, sur quelques jours, en final, on a quadruplé d'usage, c'est-à-dire que là où on avait quelque chose comme 1000 ou 1500 utilisateurs par jour, on est passé à 6000 utilisateurs par jour. Là actuellement, ce matin, on était sur des problématiques de performance, on est à 2200 connexions simultanées sur le service CrayPad. Et cette hausse de la façon dont on l'a analysée nous vient tout particulièrement d'Allemagne. En fait, CrayPad est très populaire en Allemagne, beaucoup plus qu'en France. C'est la France.
Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça, Ludovic ?
Alors pourquoi l'Allemagne ? Honnêtement, c'est alors il y a le fait que il y a une instance majeure d'Etherpad qui existait en Allemagne, qui était gérée par le Pirate Party allemand. Et en fait, ils l'ont migré à CrayPad. Et en fait, cette instance a beaucoup de visibilité en Allemagne, en particulier auprès de gens qui sont sensibles aux problématiques de vie privée dans le monde digital. Et en fait, ça a fait énormément de publicité logicielle CrayPad, et entre autres dans les milieux éducatifs. Donc on pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs dans les milieux éducatifs, et d'où aussi la hausse pendant le confinement. Il y a eu aussi une présentation de CrayPad au CCC il y a quelques années. Enfin, CrayPad est très connu en Allemagne, plus qu'en France.
J'aurais juste précisé que le CCC, c'est le Chaos Computer Camp, c'est ça ?
C'était au Chaos Computer Camp, effectivement, qui est géré par le Chaos Computer Club.
Voilà, exactement.
Et qui est en fait le club de hackers, on va dire, le plus connu en Europe et parle beaucoup de ces sujets-là. Et donc la visibilité que ça a donné à CrayPad lors de cette présentation a fait que ça a démarré un peu de connaissance du logiciel Clicky, du logiciel CrayPad. Alors après, est-ce que les Allemands sont plus sensibles à la vie privée? Bah, c'est possible. Je serais pas complètement jugé de ce point-là. Mais en tout cas, nous, on est très contents d'être en France. Creepypasta, son développeur principal, il est canadien, il est au Canada. On est très content de pouvoir développer ce projet de façon internationale. Et le fait que notre premier pays soit pas notre pays à nous, c'est finalement très bien. Ça rend le projet encore plus international.
D'accord. Donc il y a une hausse d'utilisation. Est-ce que vous avez des demandes, par exemple, alors soit de type support, c'est-à-dire pour d'aide à l'utilisation, ou des demandes pour rajouter des fonctionnalités qui seraient utiles dans cette période de confinement, enfin qui seraient plus utiles dans cette période de confinement que déjà la normale?
Alors, on en a pas mal. Alors on a en permanence des demandes. On a une liste assez large de ce que les gens voudraient qu'on fasse. Après, on voit dans la période de confinement une chose, c'est que l'audioconférence, la vidéoconférence, c'est quelque chose de très important. Et c'est peut-être encore plus populaire, on va dire, et plus nécessaire que les documents partagés. Et donc, il y a aussi une demande de, est-ce qu'on peut pas faire travailler ces outils-là ensemble? Est-ce qu'on peut faire une conférence en même temps qu'on fait un document? Et est-ce qu'on peut pas intégrer les outils? Donc, on a commencé à regarder, mais c'est compliqué parce que, en fait, l'audioconférence chiffrée, ça n'existe pas vraiment encore. Il y a quelques petits trucs, il y a des débuts de travaux autour de Jitsi pour faire du chiffrement bout en bout, mais il ne fonctionne que sur Chrome. Voilà. Et alors, moi personnellement, en fait, j'ai commencé à faire un prototype dans CryptPad pour voir un peu ce que ça pourrait faire. Et donc, on commence à avoir des discussions autour de ce sujet-là. Mais ce que nous demandent le plus les gens, ils nous demandent en fait la... des applis mobiles. Ils nous demandent des fonctionnalités dans les outils eux-mêmes. Par exemple, une des choses qui nous est le plus demandée depuis longtemps, c'est des utilisateurs d'Etherpad, c'est de pouvoir faire la coloration liée à l'auteur du texte. Donc, dans un pad de texte, pas dans un pad riche, hein, mais dans un pad de texte, c'est de pouvoir voir visuellement quelle partie du document a été écrit par qui. Et en fait, ça sort aujourd'hui, grâce à des contributeurs
aujourd'hui.
Et aux travaux des équipes. Ça sort en ligne ce D'accord. soir, en fait, dans quelques heures.
Ok, on va juste préciser pour les gens...
Les pads de code.
On va juste, Ludovic, préciser que quand tu parles d'Etherpad, c'est un logiciel qui permet de faire de l'écriture collaborative en ligne, même si derrière, il peut y avoir plusieurs logiciels, mais en gros, c'est ça, quoi. Et donc là, ce que vous allez sortir ce soir, c'est la coloration qui permet de savoir effectivement qui a contribué sur telle partie de tel texte.
Exactement. C'était probablement la feature qui embête le plus les utilisateurs d'Etherpad ou de Framapad, puisqu'en France, il est connu à travers Framapad, Etherpad. C'est la fonctionnalité qui manque le plus aux utilisateurs de Framapad pour passer sur CryptPad. Et donc, chiffrer leurs données. Parce que, en fait, pourquoi notre système est pas basé sur Etherpad? Parce qu'on s'est posé la question. C'est pas parce qu'Etherpad n'est pas un bon logiciel, c'est parce qu'en fait, le système algorithmique derrière Etherpad ne peut pas être chiffré de la façon dont on le fait dans CryptPad pour empêcher le serveur de voir les informations. En fait, dans Etherpad, l'algorithme est fait pour que ce soit le serveur qui s'occupe de la synchronisation temps réel du document. En fait, il faut comprendre que c'est très compliqué. Finalement de se passer du serveur pour synchroniser les actions des utilisateurs sur des documents. Et c'est ça l'innovation qu'il y a derrière CryptPad.
Tu l'as tout à l'heure expliqué au début, la base d'un outil comme CryptPad, c'est ce qu'on appelle le zéro connaissance. C'est-à-dire que le serveur n'a vraiment aucune connaissance des données qui sont éditées parce qu'en fait, tout se passe sur le poste client, et notamment le chiffrement. Et donc, évidemment, d'un point de vue algorithmique, c'est-à-dire d'un point de vue processus, écriture de code, c'est beaucoup plus compliqué à faire que si tout se passait sur le serveur, mais à ce moment-là, le serveur aurait accès aux informations.
C'est ça, et c'est vraiment. Alors, il faut, on peut pas dire aucune, hein, parce que c'est, il y a toujours un peu d'informations. Par exemple, il y a les IP, on voit les IP des gens qui sont connectés, on voit toujours quelque chose. Mais vraiment, le travail au niveau de TripPad, c'est la minimisation des informations qui sont transmises, aussi bien sur les documents que sur les données autour des documents. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau dans le développement logiciel. Là, aujourd'hui, quand du chiffrement est introduit dans les logiciels, on va avoir du chiffrement du client vers le serveur, on va avoir du chiffrement d'une partie des données. Mais en fait, on va très rarement avoir une approche qui consiste à dire, attention, il faudrait que tout soit chiffré. Et ça, c'est vraiment le travail qui est fait derrière CRIPAD, c'est de se reposer en disant, on va chiffrer tout, et tout en offrant un outil qui est extrêmement ergonomique et extrêmement facile à utiliser. C'est vraiment ça notre objectif, et c'est de prouver qu'il est possible aussi de repenser la façon dont les logiciels sont écrits pour être privacy by default, privacy by design, qui est un sujet important, hein. C'est finalement, on l'a entendu avec la polémique autour de Zoom. Zoom, ils ont prétendu que leur logiciel faisait du chiffrement de bout en bout. Et après, ils ont déclaré, ce qu'on appelait bout en bout, c'est du client au serveur. C'est pas du client à l'autre client. Et donc il y a beaucoup de mésusages des termes de sécurité dans le domaine. Et le travail qu'on essaie de faire dans CRIPAD, c'est de vraiment de minimiser, mais en même temps, on veut pas raconter de salade aux gens sur qu'est-ce qui est disponible. CRIPAD n'est pas un outil anonyme, par exemple, parce que il est possible de retrouver à partir de l'IP, on peut retrouver des choses. On va pas retrouver les données, mais on peut quand même retrouver qui utilise l'outil, enfin quelles IP sont venues utiliser l'outil CRIPAD.
Oui, parce que ça fait aussi partie de certaines obligations d'hébergeurs de garder des données pendant un certain temps, dont les adresses IP.
À partir du moment où une donnée a été transmise, elle est compromise. Donc qu'on la garde ou qu'on la garde pas, ça la compromet plus ou moins longtemps, mais à partir du moment où elle est transmise, elle est compromise.
Tout à fait. Est-ce que vous avez reçu des propositions de code ? C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, tiens, moi, parce que CryptoPad est développé exclusivement, si je me souviens bien, donc par ta société, par XWiki, est-ce que vous avez reçu des propositions de ce qu'on appelle des patchs, c'est-à-dire un code qui permet de rajouter une fonctionnalité dans CryptoPad ou de corriger un bug ?
Oui, alors on a régulièrement des propositions de code. Maintenant, il faut, c'est pas la majorité du code, mais typiquement la coloration, c'est des gens du Pirate Party qui l'ont fait. Donc c'est nous qui l'avons intégré. Donc oui, on reçoit des patchs, on reçoit aussi beaucoup de rapports de bugs qui nous précisent exactement quel est le problème et qui nous aident beaucoup à développer plus vite. C'est tous les avantages du développement sous forme de logiciel libre et qui est très important. Maintenant, la majorité du code est écrit par nous. C'est du code qui est compliqué. C'est pas facile de rentrer dans CRIPAD du fait de à la fois de son architecture, des problématiques de sécurité, mais c'est faisable, hein. C'est-à-dire que s'il y a des développeurs JavaScript qui veulent venir aider, faut pas hésiter. On a besoin d'aide, on a plein d'idées, et on a clairement pas assez de moyens pour réaliser toutes les idées qu'on voudrait réaliser. CRIPAD, en fait, c'est une équipe de 3 personnes dans ma société. Donc un designer et 2 développeurs. Et aujourd'hui, le financement, initialement, c'était un financement de projet de recherche de la BPI. Et c'est en fait cette année, et depuis mars 2019, on a réussi à trouver des financements européens. NLNet, j'en avais parlé la dernière fois lors de l'émission, et NGI Trust. On a aussi eu une aide de Mozilla, en fait, lorsqu'on était à Fosdem, il y a eu un événement où on voulait venir pitcher des projets open source et gagner, entre guillemets, 10 000 dollars. Et CRIPAD a été un de ceux-là. Et donc on a reçu aussi 10 000 dollars de Mozilla, de la Mozilla Foundation, donc on les remercie. Et ça nous permet de financer notre équipe au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc tout ça, c'est on est plutôt très, enfin, très satisfait de la façon dont les choses avancent. On est un peu moins satisfait de la crise du Covid, qui est positive pour l'usage de CryptPad, mais évidemment, on aurait préféré que ça n'arrive pas. Mais en tout cas, on avait bouclé notre financement pour l'année, ce qui est une bonne nouvelle. On a aussi on peut prendre des souscriptions sur CryptPad.fr et on peut faire des donations sur Open Collective. Et je ne limiterai pas le fait que c'est important, en fait, que ces donations, même si elles ne représentent pas la majorité de l'argent dont on a besoin aujourd'hui pour le développement de CryptPad, ils sont très importants parce que notre objectif, c'est pouvoir transitionner de financement public à un financement qui nous rend indépendants du fait de demander de l'argent, en fait, et d'avoir un financement régulier, soit par nos utilisateurs sur CryptPad.fr parce qu'ils payent des souscriptions, soit des donateurs réguliers sur Open Collective. En fait, aujourd'hui, on estime à peu près à 20 000 euros ce qu'on obtiendra par ce biais sur l'année. Et pour être indépendant, idéalement, il nous faudrait 150 000, 200 000 euros.
D'accord. On va rappeler que la BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Et j'encourage donc une nouvelle fois les auditeurs et auditrices à écouter l'émission du 10 mars 2020 hein, sur causecommune.fm consacrée au financement de logiciels libres et notamment donc avec le retour d'expérience de Ludovic. Ludovic, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour terminer ?
Oui, le dernier point que je voulais dire, c'est tu as mentionné qu'est-ce qu'on nous demande. Il y a des choses qu'on nous demande pas, c'est que le service marche et quand on a multiplié par 4 l'usage, évidemment, fallait qu'il tienne. Et en fait, le gros de notre action ces dernières semaines, ça n'a pas été uniquement de rajouter des fonctionnalités, parce que on avait un plan de travail de fonctionnalités très riche, mais en fait, c'est rajouter à ce plan de travail de fonctionnalités un plan de travail sur la scalabilité, la montée en charge du serveur et du logiciel. Et en fait, parce que quand on est passé du jour au lendemain du simple au double, on est plutôt très satisfait que ça n'a pas planté et ça s'est fait dans des bonnes conditions, mais c'est pas du tout évident, et donc que si ça continue à monter, évidemment il faut qu'on continue à suivre la montée en charge, et donc c'est une grosse partie de nos actions, c'est de tenir la charge. On sait que Framasoft, quand l'éducation nationale a pointé en disant aux profs allez utiliser les services de Framasoft, Framasoft a réagi en disant mais attendez, si tout le monde vient, nous on pourra pas tenir, faut être clair. Et donc c'est un des problèmes de tous ces services en ligne, c'est qu'il faut les faire tenir aussi face à la montée en charge.
Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison de préciser ça. Ben écoute Ludovic, je te remercie. Le site web donc pour découvrir et utiliser CryptPad, c'est cryptpad.fr, donc n'hésitez pas à l'utiliser, à faire des retours, des contributions, soutenir aussi financièrement. Donc c'était donc Ludovic Dubost, donc de la société XWiki, qui nous a parlé de CryptPad. Ludovic, je te souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt sur nos antennes, sans doute pour reparler à nouveau de logiciels libres de financement.
Merci, bonne journée, bonne soirée.
Bonne journée.
Et bravo pour l'émission.
Merci Ludovic. Alors nous allons faire une pause musicale avant de passer au sujet suivant qui sera l'éducation. Nous allons écouter Nomade par Mella. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune
93.1. Never in one place, living off of memories, visits to outer space. It's a combination of reasons esoteric and personal to me. When ancient spells control a situation, I leave. It's the human in me. Never had a room more than a year at a time, leaving invisible statues behind, knowing where to buy the cheapest food and the fastest wine. No desire to be called continental, till I could say I slept on every continent. Antarctica, you better know I'm coming for you. Too sweet, it's the gangster in me.
escape another town. 100 miles further to infinity. Today it's Massapequa, tomorrow New Orleans. Maybe just this once the world could settle down for me. But that would be too easy.
Eh bien, ça groovait sur Cause Commune. Nous avons écouté Nomade par Mela, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, donc CC BY SA. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune. N'hésitez pas à participer à notre conversation ou à intervenir en vous connectant donc sur le site de la radio causecommune.fm, à nous rejoindre sur le salon dédié à l'émission Dièse Libre à vous. Je salue d'ailleurs la douzaine de personnes qui est présente sur le salon. On voit que le confinement permet à des personnes d'écouter en direct l'émission, donc je les salue et je les remercie de leur fidélité. Nous allons donc maintenant passer au sujet suivant. Nous avons récupéré, a priori, Vincent Xavier. Oui, je le vois sur le salon Mumble. Est-ce que tu m'entends bien, Vincent Xavier ?
Oui, je suis présent là.
Ok, donc nous allons poursuivre donc avec l'interview donc de Vincent-Xavier Jumel, professeur de mathématiques dans un lycée de Saint-Denis. Si vous êtes une personne fidèle de l'émission, nous avons déjà eu Vincent-Xavier dans l'émission du 19 mars 2020, donc au tout démarrage du confinement, dans une antenne libre consacrée aux services libres et éthiques. Il était donc déjà intervenu, le podcast est disponible sur causecommune.fm. Par contre, là, on me signale qu'il y a de l'écho. Donc je pense que ça vient de Vincent Xavier ce coup-ci, qui a dû activer un truc, donc on va voir si ça peut se régler. Alors déjà, Vincent Xavier, première question, comment se passe le confinement et est-ce qu'il y a notamment des évolutions par rapport au début, donc par rapport à l'émission du 19 mars 2020 ?
Pas forcément actuellement, je vois pas d'évolution majeure.
D'accord, donc pour toi en tout cas, il n'y a pas, en tant que prof, il n'y a pas eu d'évolution. C'est
Non, de notre point de vue, la situation est restée à peu près la même, c'est-à-dire qu'on a toujours aussi peu d'outils réellement utilisables. Quelques tentatives, on voit sur continuitépédagogique.org qui avait été mentionné dans les émissions, il y a des choses intéressantes, mais s'il n'y a pas d'outils institutionnels qui sont arrivés, qui révolutionnent la pratique.
D'accord. Alors, je vais juste préciser pour les personnes qui nous écoutent et qui entendent l'écho, techniquement, c'est tout simplement parce que Vincent Xavier s'est mis en diffusion continue sur notre outil de discussion qui s'appelle Mumble, plutôt que de se mettre en appuyé pour parler. Donc, comme il va pas... Ah, il a changé ça, donc peut-être qu'il n'y aura plus d'écho. Merci, Vincent Xavier. Alors, tu me dis que d'un point de vue donc prof, il n'a pas des élèves. Est-ce que tu sais vivent le confinement et les suivis des cours avant qu'on parle des outils que tu leur proposes, enfin, en tout cas les outils que tu utilises?
Les premiers retours que j'avais, c'est que les élèves trouvaient ça extrêmement difficile, extrêmement fatigant, extrêmement usant, de la déperdition d'infos, beaucoup de travail. Les élèves sont, je pense, un peu perdus face à l'afflux d'informations dans tous les sens. Ça, c'était les premiers retours. Et plus le temps avance, là, avec la reprise, j'ai l'impression que c'est les mêmes échos. Avec la reprise du travail, les réflexes qui ne reviennent pas forcément. Et je pense que les élèves en ont ras-le-bol, surtout qu'il fait beau, ils n'ont plus envie, c'est d'être dehors.
Alors, on va se permettre de raconter un peu notre vie, hein, parce que Vincent Xavier, quand je dis qu'il est enseignant de mathématiques dans un lycée de Saint-Denis, il se trouve que l'une de mes filles est une de ses élèves, et je lui ai un peu demandé avant l'émission ce qu'elle pensait de tout ça. Bon, elle voulait pas intervenir, hein, mais elle me confirme effectivement que le côté fatigant de la partie visioconférence, l'impression aussi d'avoir peut-être beaucoup trop de travail, et d'ailleurs Marie-Odile me demandait, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'une surenchère avec peut-être trop de travail envoyé aux élèves? Est-ce que dans ton lycée c'est le cas?
J'en sais rien parce que j'ai pas vraiment de visibilité sur le travail donné par les collègues. Moi, j'ai pris la décision d'augmenter la plage de temps nécessaire pour les élèves. C'est-à-dire que le travail est donné par exemple lundi et ils ont jusqu'au mercredi ou au jeudi pour le faire. Et puis, on va continuer sur un rythme comme ça avec un temps qui permet de s'organiser plutôt que de s'imposer, de respecter un emploi du temps qui ne fait plus aucun sens pour personne. Mon idée, c'est plus, faisons un petit peu de maths tous les jours, à petite dose, et puis surtout, soyons assez flex sur les échéances et donnons-nous le temps.
Alors d'accord, lors de l'antenne libre, on avait parlé un peu des outils. Toi, tu avais dit clairement que la visioconférence, si je me souviens bien, c'était quelque chose qui n'était pas utile. La question que je me pose, c'est est-ce que des cours donc de maths, par exemple, se prêtent vraiment bien à des cours en ligne? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, pour rentrer un petit peu dans le détail, quels outils utilises-tu, toi, pour communiquer avec tes élèves et pour leur soit faire cours, soit leur transmettre des connaissances ou des devoirs?
Alors, sur différentes suggestions, je me suis mis à la vidéo. Alors, pas la visioconférence, mais l'enregistrement vidéo d'un diaporama sur l'écran avec des commentaires audio, ou tout simplement la sélection de vidéos déjà existantes, puisqu'il en existe quantité, qui permettent d'avoir le cours directement. Et puis, ça c'est pour une partie de transmission d'informations. Le reste, un document au format par exemple PDF ou web permet de transmettre énormément d'informations. La deuxième partie, beaucoup de QCM ou de questions avec des questionnaires avec des questions d'ordre mathématique qui, pour le coup, se prêtent quand même très bien à l'évaluation automatique. Alors, il y a des tas de faiblesses dans le QCM, c'est évident, du point de vue pédagogique, mais du point de vue informatique, c'est très facile à mettre en œuvre et ça permet de tester des élèves.
Et je crois que tu utilises un outil qui s'appelle Moodle, en tout cas tu m'en avais parlé au début, je ne sais pas si tu l'utilises encore, donc un outil de plateforme d'apprentissage en ligne.
Oui, alors j'utilise Moodle avec un succès assez mitigé en fonction des classes et pas forcément des niveaux. Disons que j'ai sur un même niveau où j'ai deux classes, j'ai une classe qui a très bien dès le début su s'emparer de l'outil dans sa globalité, globalement, hein. Je dis pas qu'il y a pas quelques élèves qui ont du mal avec, mais la plupart des élèves ont réussi à s'emparer de l'outil, et puis une autre classe qui dans sa globalité, là encore pour actuellement, je ne dis pas qu'il y a des élèves qui n'arrivent pas à s'en emparer, mais qui n'arrivent pas à rentrer dans l'outil. Et on est dans une situation étrange parce que les deux classes, malheureusement, cette année, l'outil n'avait pas été présenté aux élèves avant le confinement, ce qui est un petit peu dommage et qui facilite le travail. Je sais que au moins un collègue en anglais utilise Moodle, cette même plateforme d'apprentissage de cours en ligne en anglais, avec énormément de ressources audio, et les élèves doivent ensuite, par exemple, reconstruire des phrases qu'ils ont entendues, etc. Informatiquement, le QCM c'est très bien et c'est à peu près le seul outil un peu qu'on peut utiliser parce que dès qu'on veut écrire, dès que les élèves veulent écrire du texte un petit peu libre, c'est impossible de corriger ça automatiquement ou du moins ça demande un tel temps de développement des questions que ça va plus vite de les corriger à la main.
D'accord. Est-ce qu'il y a la problématique de la multiplicité des outils? L'impression que j'ai, c'est qu'en fonction, comme rien n'était préparé, et certainement pas le ministère de l'Éducation nationale n'était pas préparé à ce genre de choses, est-ce qu'il n'y a pas une multiplication ou diversité d'outils, chaque prof essayant de faire en fonction de ce qu'il trouve, donc avec des outils plus ou moins libres ou plus ou moins faits pour ça, et donc mettant les élèves potentiellement devant l'obligation d'apprendre différents outils, et en plus en mode confinement. Est-ce que toi tu vis ça au quotidien?
Moi je le vis pas, mais je pense que c'est le cas quand je vois les quelques échanges mails qu'on a encore avec les collègues où les uns parlent de Discord, les autres parlent de Zoom, d'autres encore parlent de la classe virtuelle. Et au final, effectivement, je pense qu'il y a effectivement d'autres parlent encore de l'outil école directe qu'on utilise, qui est le cahier de texte électronique auquel les élèves sont habitués. Et tout ça, c'est lié au fait que, malgré tout, l'école n'a jamais fait réellement le grand saut au numérique. On a fait des timides choses et on s'est jamais posé la question du numérique à l'école, à part des endroits où on a distribué des tablettes en veux-tu en voilà. On a dit utiliser le NT, utiliser le cahier de texte en ligne, et puis derrière on ne s'est jamais posé la question de mais en fait de quoi vous avez réellement besoin et qu'est-ce qu'il faudrait développer.
D'accord. Et est-ce que par rapport à tes élèves, tu sais, bon, pas une statistique, pas un pourcentage forcément précis, mais est-ce que tu sais si la plupart arrivent à suivre ou est-ce que beaucoup d'élèves décrochent en fait et finalement n'arrivent pas du tout à suivre, que ce soit pour des questions peut-être de manque de matériel informatique, soit tout simplement parce que ils n'ont pas été formés à utiliser ces outils. Donc la partie, on va dire, des décrocheurs.
Bah, j'ai pour le moment sur les classes de lycée, j'ai je dirais que j'ai un bon tiers j'ai un tiers d'élèves que j'ai du mal à atteindre. Autre que salut, ça va, tu es encore bien en vie, mais pédagogiquement dur à joindre, et pour lesquels je sais pas, je n'arrive pas à savoir si le problème est d'ordre technique ou si c'est d'un autre ordre. Alors sur des élèves de première, je suspecte un petit peu, comme en première maintenant ils abandonnent une spécialité à la fin de l'année, qu'avec les annonces de non-évaluation de la spécialité abandonnée, les élèves se sont dit bon, c'est bon, on va pas se faire chier à continuer à faire cours alors que ça va pas être évalué et que ils vont prendre la moyenne du premier trimestre et qu'elle n'était pas si mauvaise que ça, donc je vais m'en sortir. Du coup, je sais pas. Alors, j'ai eu la bonne surprise d'avoir des élèves qui sont revenus en disant « ça y est, j'ai reçu mon ordinateur, je vais pouvoir me remettre à travailler » et qui ont en deux jours complété 3 ou 4 QCM plutôt longs, donc ont vraiment fourni beaucoup de travail d'un coup et qui étaient réellement bloqués par des... pour des raisons bassement matérielles. J'ai pas d'ordinateur, je peux pas travailler.
D'accord. Petite question que je relaye depuis le salon. Est-ce qu'après le confinement, vous allez poursuivre l'utilisation de ces outils-là? Et je compléterai en disant, est-ce qu'une formation, par exemple, pour les profs et pour les élèves à un outil peut-être unique, hein, et si possible libre, est prévue ou pas du tout?
Alors, moi je l'envisage, mais après, le problème de la formation des professeurs, c'est qu'elle est toujours basée sur le volontariat. Et donc, on propose une formation, il va y avoir 10% des profs qui vont s'inscrire, qui sont en fait souvent ceux qui n'ont pas réellement besoin de formation, mais qui ont besoin de confirmation de choses qu'ils connaissent déjà. Et puis les autres vont attendre la prochaine tempête pour se dire « Ah bah tiens, ça aurait été bien que j'aille à la formation utiliser les outils numériques. Pour le reste, je sais pas encore. Moi, je profite un peu de ce confinement pour capitaliser sur la création de vidéos et de ressources qui seront utilisables. Pas forcément dès la rentrée, dès le retour avec les élèves, s'il a lieu, mais de me dire, tiens, c'est l'occasion enfin de mettre en place de la classe inversée que j'avais toujours jamais pris le temps de mettre en place parce que faut pas se voiler la face, pour produire 10 minutes de vidéo, on utilise 2 heures.
Alors, juste en conclusion, dans les 30 secondes, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la classe inversée, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ce concept?
Oui, alors, l'idée de la classe inversée, c'est l'élève a reçu le cours en amont, il reçoit chez lui une ou plusieurs courtes vidéos qui présentent le cours, et le temps en classe n'est plus consacré qu'aux exercices.
D'accord. Ok, donc a priori, bon, la rentrée est potentiellement prévue, donc en termes de lycée, sans doute autour du 18 mai, si j'ai bien compris les dernières annonces de Jean-Michel Blanquer. Bon, en tout cas, je te souhaite bon courage et puis aussi aux élèves dont mes enfants font partie. Est-ce que tu souhaites ajouter un mot de conclusion ou rajouter quelque chose?
Juste un mot, un super logiciel que j'ai découvert, c'est VocoScreen NG. Qui permet de faire des captures d'écran animées avec captation du son en même temps.
D'accord, donc on mettra la référence sur les sites de la radio, causecommune.fm et sur le site de l'April, april.org. Bah, écoute, c'était Vincent Xavier Jumel, donc professeur de mathématiques dans un lycée de Saint-Denis. Vincent Xavier, je te souhaite une bonne fin de journée, et puis un bon courage pour le retour dans quelques semaines au lycée.
Ben, merci, et bon courage aussi à vous tous.
Alors, sans transition, sans pause musicale pour laisser un petit peu de temps à la discussion, nous allons poursuivre et finir par la chronique de ma collègue Isabella Vanni. Donc Isabella est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Et dans sa chronique du jour, Isabella va nous raconter un peu son expérience personnelle avec les outils de visioconférence libre en temps de confinement et les réactions de son entourage. Est-ce que tu es avec nous, Isabella?
Oui, vous m'entendez bien.
Donc voilà, je te laisse la parole déjà sur le retour d'expérience avec les outils de visioconférence libre. Vas-y, explique-nous.
Oui, merci. Donc j'avais envie aujourd'hui de partager deux petites expériences que j'ai eues avec mon entourage. Donc n'hésite pas, Fred, à me poser des questions pour avoir plus de précisions, ou si je dis des bêtises en français aussi, à me corriger. Et donc la première expérience était un peu troublante, on va dire. En fait, j'ai l'habitude depuis plusieurs années déjà d'utiliser des instances Jitsi Meet pour parler, échanger avec mes amis. Et du coup, j'avais proposé de faire la même chose à des anciennes collègues que je fréquente régulièrement, bon, un peu moins régulièrement depuis qu'on est confiné, mais voilà, c'est une façon pour les revoir. Et donc je leur ai proposé de se voir sous une instance de Jitsi Meet. On a parlé de ce Kiki très récemment, donc sur LibreAvis. Donc c'est un service libre de visioconférence, très intuitif. Il suffit de partager en fait un lien aux personnes participantes. On se retrouve on se retrouve sur un salon. Donc ça me semblait le outil le plus simple, le plus intuitif, le plus direct pour se voir. Et j'ai quand même pris le temps de expliquer en quoi ça consistait Jitsi Meet, quelles étaient les astuces en fait pour que ça marche au mieux. Notamment, on sait qu'ils vont utiliser un navigateur basé sur Chromium. Donc, je leur ai même donné le site où télécharger Chromium, utiliser une connexion filaire, etc. Je leur ai expliqué comment faire pour se connecter. Donc, de ma part, tout était bon. Et puis en fait, il y en a deux d'anciennes collègues qui arrivent à se connecter sans problème, et il y en a une en fait qui a des difficultés et qui m'envoie un message qui m'a un peu mis le froid dans le dos. Et le message, je cite, parce que c'est bien de le dire, c'était désolé Isa, cela fait plusieurs fois que je tente, mais je n'arrive pas à me connecter. Pour les nazes comme moi, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser Skype ou WhatsApp la prochaine fois? Donc, alors, il faut savoir que, tout d'abord, moi, j'apprécie énormément cette ancienne collègue que je considère une amie, qui n'est pas du tout démunie face à Internet ou à l'informatique. Donc, déjà, le fait de se dire naze, ça m'étonnait pas mal. Et puis, il s'agit d'une personne, peut-être que je vais pas passer des heures à la sensibiliser, mais c'est quand même une personne avertie, qui connaît notamment les enjeux, les dangers liés aux outils proposés par les GAFAM sur Internet. Et elle sait très bien que j'utilise pas ces outils, donc du coup, je l'ai appelée pour comprendre ce qui se passait. Et là, elle en a rajouté davantage. Elle m'a dit, Isa, ça marche pas, ton truc. Et là, j'ai senti une grosse goutte de sueur. C'était très dur d'entendre qu'un logiciel libre est le truc de quelqu'un. C'est pas tenable.
Au moins, elle est restée polie, parce qu'elle aurait pu te dire, c'est quoi ce truc de merde, comme on a assez souvent entendu. Malheureusement. Donc, qu'est-ce que tu as fait quand elle t'a dit ça?
Elle est effectivement une personne. Elle est une personne qui est très gentille, très polie effectivement. Je suis restée polie moi aussi. Et donc j'ai fait exactement ce qu'ils font à chaque fois les techniciens, les informaticiens bénévoles de l'April quand j'ai un problème informatique. Donc je profite au passage pour dire bonjour à nos bénévoles informaticiens et pour les remercier pour leur patience et leur bienveillance. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai posé des questions pour comprendre ce qui s'était passé. Je me suis fait décrire exactement ce qu'elle faisait. Et très rapidement, moins d'une minute, j'ai compris en fait que ça lui faisait un problème très banal. Le lien que je lui avais envoyé n'était pas complètement cliquable dans son courriel, ça arrive parfois, ça m'arrivait à moi-même, et du coup l'URL, l'adresse qui s'affichait sur la barre des adresses n'était pas complète, et je l'ai invité à copier-coller le lien au lieu de cliquer dessus comme elle avait fait peut-être 10 fois avant de m'écrire, et hop, elle était avec nous. Voilà, comme quoi ça, c'était peut-être plutôt un problème. Ça n'a absolument rien à faire avec Jitsi Meet.
Donc, c'était pas un problème effectivement avec Jitsi Meet. Et qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience ?
Ce que j'ai tiré de cette expérience, c'est que malheureusement, même de la part d'une personne, voilà, que j'apprécie énormément, qui est très avertie et tout, j'ai senti que les idées logiciel libre égale ça marche pas et logiciel propriétaire égale ça marche, valeur sûre, ont encore la vie dure. J'ai senti aussi que pour elle, les logiciels libres restaient un truc compliqué qui était bon pour les geeks et pas pour les nazes comme elle s'est appelée. Et j'ai senti aussi qu'elle était, je sais qu'elle est très fatiguée en ce moment, qu'elle a beaucoup de travail. Et donc j'ai senti que en cas de stress, de manque de temps ou d'énergie, chez certaines personnes, il y a encore cette tendance à aller toujours voir des choses qu'on ne connaît pas, sans se poser les bonnes questions. Et les GAFAM, bien sûr, profitent bien de cet aspect, de cet état psychologique. Donc, quand on fait de la sensibilisation, on doit avoir bien en tête tous ces aspects, même ces aspects psychologiques. Il faut apporter donc les arguments pour déjouer, démonter les idées reçues pour faire comprendre comment c'est important de se libérer de cette dépendance aux outils propriétaires.
C'est ton premier cas d'expérience, je crois que tu as un deuxième cas.
Tout à fait. Donc le deuxième cas, ça s'est passé beaucoup mieux. Et en fait, c'est une personne pour le coup qui était pas du tout à l'aise en informatique. C'est ce qu'elle m'a dit et j'ai dû croire parce qu'en plus dans sa vie personnelle, elle est enseignante de stretching presque à temps plein. Disons que même au niveau professionnel, elle n'a pas du tout besoin de l'ordinateur. Et j'ai bien compris que c'est pas quelque chose qu'elle fréquente souvent, sauf peut-être pour naviguer sur Internet ou pour utiliser le webmail. Et du coup, paradoxalement, mais je me dis que finalement, pas tant que ça, ça s'est mieux passé avec elle. Il se trouve qu'elle souhaite proposer en fait des cours en ligne et en direct pour éviter qu'on s'abâchit sur le canapé le lundi soir. Et du coup, son attitude en fait par rapport à la nuit dont je parlais tout à l'heure était très différente. C'est-à-dire que au lieu de nous écrire et de nous dire allez, je vous propose des cours, rendez-vous sur Skype ou sur Zoom. Elle a demandé par courriel ce qu'on pensait, elle a demandé de l'aide, clairement, et à nouveau, j'aime bien citer ce qui disent les gens, parce que c'est beaucoup plus parlant parfois, donc elle a dit, elle écrit plutôt, je ne sais pas encore ce qui est le mieux, je suis preneuse d'infos et de guidages pour constituer les groupes afin de se connecter aux heures de cours. Donc c'est clairement une personne qui dit, j'en sais pas trop. Et du coup, je demande vos conseils. Donc c'était une excellente occasion pour faire découvrir les services de visioconférence libres et décentralisés. Donc, je lui ai parlé de Jitsi Meet et je lui ai parlé aussi de Big Blue Button. Donc,
Alors, c'est quoi ça, Big Blue Button? On a déjà parlé récemment avec Laurent Jouetz dans l'émission, je crois, du 7 avril 2020, qui était aussi consacrée à Jitsi. Et donc, rappelle-nous ce qu'est Big Blue Button et comment s'est passée cette expérience.
Donc, Big Blue Button, ou BBB, parce que on a déjà commencé à utiliser l'acronyme pour aller plus vite, notamment sur les salons de chat. C'est un service libre décentralisé de visioconférence qui, par rapport à Jitsi Meet, est un petit peu, on va dire, plus complexe, non seulement à déployer, et en fait, il n'y a pas énormément de distance en accès public pour l'instant. C'est aussi un peu plus complexe comme interface, parce qu'en fait, il a été pensé justement pour faire des cours, donc pour faire des choses un peu plus complexes qu'un simple échange entre amis, par exemple. Il est beaucoup plus stable que Jitsi Meet parce qu'on reçoit un flux agrégé au lieu de recevoir un flux visio pour chaque personne qui se connecte. Donc il a des caractéristiques très intéressantes, voilà, pour faire les cours. Et voilà, du coup j'ai pensé à lui proposer cet outil, et du coup elle a demandé de l'aide, j'ai répondu à l'aide, je lui ai envoyé un courriel en lui expliquant, cette fois j'ai commencé en expliquant les dangers de Skype, Zoom et compagnie. J'ai lui présenté les deux services, parce que quand même j'avais envie aussi de lui présenter un service qu'elle pourra utiliser comme Jitsi Meet dans d'autres occasions, en petit groupe. Et je lui ai dit, voilà, que Big Blue Button, BBB, était plus adapté pour ce qu'elle souhaitait faire, c'est-à-dire un cours de gym en direct avec au moins 10 personnes participantes à chaque fois, 10 élèves. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu pourrais par exemple créer un compte sur cette instance que j'ai trouvé grâce aux magnifiques fiches de documentation du collectif Chaton. Et je me suis rendu disponible pour le tester ensemble, pour faire un tuto et pour l'animatrice, donc pour elle et pour les élèves. Et du coup, voilà, j'ai pris un peu de mon temps. Elle était super heureuse d'avoir quelqu'un qui l'aidait, et ça s'est super bien passé. Et donc, elle a déjà annoncé à ses élèves qu'on fera notre premier cours la semaine prochaine sur Big Blue Button. Donc, superbe expérience.
Bah écoute, super référence et puis super retour d'expérience, hein. Les gens qui voudraient tester Big Blue Button et d'autres services libres et loyaux peuvent se rendre sur le site que tu as cité, donc des chatons avec un S, hein, chaton.org, hein, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Bah écoute, merci pour ce beau retour d'expérience et je te souhaite un bon cours de stretching donc devant Big Blue Button dans la semaine.
Merci beaucoup.
Voilà, et puis on se retrouve bientôt au bureau, je l'espère. Peut-être en mai, peut-être en juin, on ne sait pas trop. On verra. Alors, c'était donc la chronique d'Isabella Vanni, donc, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Donc, bah, écoutez, notre émission se termine, hein, nouvelle émission en confinement. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Laurent Lémence, Emmanuel Réva, Vincent-Xavier Jumel, Isabella Vanni, Ludovic Dubost. Aux manettes de la régie aujourd'hui, William Agazvari. Merci également à Sylvain Kutzmann, bénévole à l'April, et à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à la coupe, le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio, causecommune.fm, une page avec toutes les références utiles, ainsi que les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire vos remarques, poser vos questions, qui sont bien entendu les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous, et faites également connaître l'émission, la radio Cause Commune, la voix des possibles. Il y a notamment en ce moment, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 12h à 13h, une nouvelle émission qui s'appelle les trois première minute, qui est l'occasion de découvrir les trois premières minutes d'un roman, d'un film ou en tout cas d'une œuvre. Je vous encourage à l'écouter. La prochaine émission aura lieu en direct le mardi 28 avril 2020, donc à 15h30. Bah pareil, nous ferons des petites fenêtres sur l'extérieur avec plusieurs sujets courts. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien.